reçoit donc ce soir Yasmine Ciblo, qui publiait il y a quelques mois de ça « Faire valoir ses droits au quotidien », sous-titré « Les services publics dans les quartiers populaires ». Et justement, donc, on va parler de cette articulation entre les services publics et les quartiers populaires. Peut-être juste avant, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Qu'est-ce qu'on entend par service public dans un premier temps? C'est quoi ce dispositif aujourd'hui qu'on met dans cette boîte-là?
Alors, je vais y répondre un peu généralement, puis après, je vais dire comment moi, j'ai pris le terme. Hein. Donc, la notion de service public, on dit souvent qu'elle est assez spécifique à la France. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Si on regarde dans d'autres pays, on va retrouver des équivalents. En fait, ce qui est un peu spécifique en France, c'est qu'il y avait l'idée qu'il y a des services dont on juge qu'ils sont d'intérêt collectif pour la population, qui doivent être gérés en dehors des règles du marché. Et en France, pendant longtemps, on considérait que ça devait être géré en grande partie par des institutions qui avaient un statut spécifique, quoi, un statut public, donc que ça soit l'État, que ça soit des collectivités locales ou des entreprises gérées avec des modes de gestion différents de ceux du marché pur. Donc ça fait une gamme de services très, très divers dans leur contenu, dans leur fonctionnement, dans leurs institutions. Alors aujourd'hui, en plus, il y a une tendance à diluer le sens de ce terme avec notamment la mise en œuvre du cadre européen, où on va parler de plus en plus de services d'intérêt général. Et alors là, l'idée, c'est qu'il y a des services d'intérêt collectif, mais n'importe qui peut les rendre. Donc en France, pendant longtemps, il y avait quand même cette idée que n'importe qui ne peut pas délivrer ses services parce qu'il faut des institutions particulières. Et puis, il faut aussi un personnel qui a un statut particulier pour bien rendre ses services. Donc ça recouvre une gamme immense de choses, hein, l'éducation, la santé, les transports, pendant longtemps l'énergie. Alors on va discuter de ça, évidemment, c'est de moins en moins de choses aujourd'hui. Alors moi, je me suis intéressée d'une part à des services administratifs, donc on reviendra sûrement dessus, mais je voulais m'intéresser à des institutions un peu du quotidien, qui soient des institutions aussi où on ait tout l'aspect gestion de routine, de démarche, qu'on soit contraint par toutes les règles de l'administration et des règles juridiques au jour le jour. Et plus particulièrement, je voulais m'intéresser à des services publics qui aient un ancrage local. Mais donc là, dans mon enquête, je me suis intéressée à des services assez différents donc dans leur statut, donc des services municipaux, donc la collectivité locale, les services administratifs d'une mairie, et puis dans cette même commune, un bureau de poste, donc là, bon, là aussi on en reparlera, hein, mais une ancienne administration qui est devenue une entreprise qui a eu un statut hybride, mais qui est de plus en plus une entreprise privée. Et puis un centre social, alors là aussi c'est intéressant parce qu'on va voir que c'est un type de statut qui se développe, donc un centre associatif qui héberge des permanences administratives, donc de la CAF, de la Sécu, là encore autre structure pour les administrations de sécurité sociale. Donc voilà, je pense que l'intérêt, c'était aussi d'avoir une diversité au sein de ces administrations de statut de personnel et de prestations rendues aux usagers. Donc voilà un peu pour service public, mais on reparlera aussi des évolutions de ce terme. Après, pour le terme quartier populaire, il y a vraiment deux niveaux de réponse. D'un côté, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur les rapports des classes populaires aujourd'hui aux institutions. Donc l'entrée par les classes populaires, c'est une entrée qui est reprise par beaucoup de travaux de sociologie contemporains, hein, qui consistent à considérer que les classes sociales sont encore structurantes dans la société aujourd'hui et qu'il y a tout un ensemble de groupes qui sont dominés économiquement, politiquement, symboliquement, culturellement, mais qui sont de plus en plus divers. J'avais vu sur le titre, vous aviez mis la classe ouvrière, ça m'amusait, parce que justement, c'est plus la classe ouvrière dont on pouvait parler avant, mais justement, quelle est la diversité aujourd'hui de ces groupes, et en particulier dans leur rapport aux institutions, on voit bien cette diversité. Donc il y a cette approche-là, donc dans ce sens-là, quartier populaire, c'est les classes populaires urbaines, mais le terme, il renvoie aussi à toutes les catégorisations de la politique de la ville, qui est une politique à la fois urbaine et sociale, qui remonte aux années 80. C'est une politique qui a été très bien étudiée par Sylvie Tissot, que vous avez invité, je crois, récemment. Et donc, elle montre bien la genèse de ces catégories, qui sont autre chose que les quartiers populaires. On va parler là plutôt de quartiers défavorisés, de quartiers en difficulté, voire de quartiers difficiles. Et donc là, c'est une lecture par le territoire des problèmes sociaux, quoi, l'idée qu'il y a des quartiers qui concentrent toutes les difficultés économiques et sociales de la société contemporaine, les formes d'exclusion, etc. Donc là, c'est un découpage à la fois politique et et administratif, hein, mais qui renvoie à une vision des rapports sociaux qui n'est pas en termes de classe. Donc c'est vraiment deux choses qui ne sont pas du même registre, quoi. Deux visions qui ne sont pas du même registre.
Alors ce travail que tu as publié, en fait, c'est un travail dans... C'était ta thèse, une thèse de sociologie. Concrètement, tu es allé... Tu y allais, tu es devenue postière, tu...
Alors pas tout à fait, non, je suis concrètement... Donc j'ai choisi d'enquêter dans un même quartier pendant une période un peu prolongée, parce que ça me semblait la meilleure façon de dépasser toute une série de clichés sur le fonctionnement de ces services et sur ces quartiers, donc dits difficiles et défavorisés. Et donc non, je ne suis pas complètement devenue postière, mais j'ai fait des stages, donc, puisque c'était un cadre universitaire, hein, donc des stages dans les différents services où j'ai enquêté, donc la poste, la mairie et le centre social. Et dans le cadre de ces stages, j'ai fait des petites choses dans le bureau de poste et dans les autres administrations, mais j'ai surtout observé le travail comme on fait en partie en sociologie, hein, pas toujours, on peut aussi être plus actif, mais moi j'ai beaucoup observé et discuté avec les gens qui travaillaient, puis avec les habitants qui fréquentaient les services, ce qui m'a permis aussi de circuler entre les services pendant une assez longue durée. Moi, je suis restée à peu près 4 ans pour faire cette enquête, hein, donc je suis revenue assez régulièrement dans la poste, à la poste, au centre social ou à la mairie. Mais je ne suis pas devenue... ni postière, ni employée de mairie, ni agente du service social.
Et tu le disais en préambule, tu disais bon, les services publics ont changé, ou en tout cas sont en train de changer. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les grands cadres des transformations que tu as pu observer dans les services publics ou que tu as pu recueillir durant tes enquêtes, quoi.
Alors, moi, je n'ai pas observé à l'échelle de mon enquête ce qui peut paraître le plus spectaculaire et le plus déstructurant dans les services publics aujourd'hui, qui sont toutes les vagues de privatisation, toutes les vagues d'externalisation des services, les changements de statut très brutaux que subissent une bonne partie des salariés de ces services, les fermetures, etc. Je me suis intéressée à un volet qui peut paraître à première vue moins important, mais qui me semble tout à fait central, qui sont toutes les transformations internes au service. Hein, je pense qu'on, quand on réfléchit à ces réformes, il faut penser aussi bien à ce qui disparaît qu'à ce qui change dans le fonctionnement des services. En termes de réorganisation du travail, de redéfinition du sens du travail, puis après au-delà de changement de statut du personnel, etc. Donc concrètement, moi, sur... dans les différents services que j'ai étudiés, bah, concernant la poste, c'est le recrutement de plus en plus fréquent de précaires. Alors, la fin du recrutement de fonctionnaires au profit de CDI, alors en grande partie à temps partiel, etc. Mais c'est aussi un accroissement des contraintes en termes de productivité, donc travailler de plus en plus vite, vendre de plus en plus de produits commerciaux, passer de moins en moins de temps à expliquer telle ou telle démarche aux habitants, etc. Donc petit à petit, vider aussi le travail de son intérêt, tel que le voit une partie des employés. Aussi fermer tout un ensemble de possibilités de carrière qui existaient avant, enfin d'évolution. Enfin, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans pas mal de services. À la mairie, on va retrouver aussi des composantes comparables. Alors, à la mairie, c'est pas une transformation commerciale, en tout cas pas dans la mairie que j'ai étudiée, dans les services que j'ai étudiés, hein, qui sont très administratifs, donc le service qui gère l'état civil ou les papiers d'identité. Mais c'est là aussi essayer de mettre en place des pratiques de travail qui s'inspirent des techniques de la grande distribution, par exemple, donc qui sont complètement extérieures aux conceptions traditionnelles du travail administratif et aux valeurs que les salariés peuvent associer à leur travail. Donc voilà un peu pour les formes de transformation que j'ai pu observer.
Il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est cette espèce d'idéologie et ces manières de faire et d'organiser le travail par le management dont on voit la pieuvre s'étendre absolument partout. Enfin, des gens à la poste qui ont des objectifs de vente sur et on voit même dans les mairies apparaître ce type de manière d'organiser le travail.
Alors tout à fait. Alors la poste, c'est assez ancien maintenant. Hein. C'est pas du tout. Enfin, je pense que c'est complètement banalisé. Mais pour ce qui est des guichetiers, on leur demande donc d'être plus productifs, etc. Mais il y a toute une série de techniques d'incitation donc pour augmenter la performance, qui consiste donc à se baser sur la rapidité des guichetiers, le nombre de produits, par exemple les colis prépostés ou ce type de choses qui ont été vendus. Donc on va faire une évaluation chaque jour du nombre de la vente et du rythme de travail des postiers, faire des, comme on peut voir à McDo, des tableaux d'honneur du meilleur guichetier, du bureau, du département, etc. Le postier du mois, tout à fait. Alors, il gagne des prix complètement dérisoires. Donc, c'est vraiment jugé complètement infantile et humiliant par les postiers parce que c'est une dévalorisation financière et symbolique qui n'ont aucun poids. Par contre, la dégradation au quotidien dans le contenu du travail, elle est très, très sensible. Donc, il y a toutes ces incitations à aller plus vite. Et puis, ce travail pour amener les guichetiers à se considérer comme des vendeurs. Donc, pendant longtemps, il y a eu des formes de résistance syndicale parce que ce n'était pas inscrit dans le contenu des postes, de la définition des postes des guichetiers. Maintenant, c'est le cas. Donc, le guichetier est avant tout un vendeur. Et donc, il doit appliquer toute une série de techniques commerciales. Alors que maintenant, je pense, enfin, les gens qui connaissent un peu la poste ont déjà décrit souvent, mais ça vaut le coup de les rappeler parce que ça paraît assez invraisemblable. Et alors, c'est des techniques directement inspirées de la grande distribution. Hein, c'est les mêmes qui ont été transposées sans en changer une virgule. Donc, par exemple, à la poste, les guichetiers doivent appliquer la méthode BRASMA. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthode BRASMA? Parce que ça se veut très scientifique. Donc, BRASMA, c'est les initiales de chacun des mots qui composent cette méthode. Donc, c'est dire bonjour, regarder le client, lui porter de l'attention, lui sourire, lui dire merci et puis lui dire au revoir. Alors d'ailleurs, je me suis trompée, c'est bonjour monsieur ou madame et ensuite au revoir monsieur ou madame. Alors cette méthode BRASMA, on explique le matin avant la prise de poste aux guichets qui doivent l'appliquer, mais aussi on va vérifier qu'ils l'appliquent bien. Et donc il y a, comme dans la grande distribution, hein, des visiteurs mystères, des clients mystères qui viennent vérifier que les guichetiers appliquent bien cette méthode, qu'ils vendent bien les produits qu'ils doivent vendre, qu'ils proposent bien des rendez-vous aux conseillers financiers. Et on va mettre une note au guichetier selon le fait qu'il ait bien appliqué ou pas la méthode, mais c'est absolument ridicule. Hein. C'est-à-dire que si on dit juste bonjour et pas bonjour monsieur ou madame, bah, on a perdu des points, etc. Et si on dit salut, ça va, alors là, on n'a rien du tout. Ce qui est quand même assez souvent le cas dans les bureaux qui sont fréquentés par
Et si on dit casse-toi, connard.
Casse-toi, pauvre con. donc voilà, il y a ces techniques-là qui se mettent en place. Alors moi, au début, je ne les ai pas tellement prises au sérieux, mais en regardant un peu fonctionner un bureau, on se rend compte que ça contribue vraiment à dégrader les relations de travail. Parce que donc, là, le bureau que j'ai observé, il a eu la visite de l'enquêteur mystère le 5 du mois. Donc le 5 du mois, c'est le jour de versement des prestations de la CAF. Donc il y a un monde fou dans le bureau de poste. Il y a tous les gens qui ont notamment le RMI ou des allocations familiales importantes qui viennent faire des retraits, payer des factures, etc. Donc le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc évidemment, on ne fait pas méthode BRASMA, on ne propose pas un rendez-vous avec le conseiller financier, on ne vend pas la dernière enveloppe timbrée, etc. Donc ils ont une note catastrophique. Et donc ça a été le plus mauvais bureau du mois. Donc le chef d'établissement, on dit maintenant, s'est fait engueuler. Tous les guichetiers se sont fait engueuler. Ils ont dû remanger du BRASMA tous les matins pendant une semaine. Donc ambiance détestable, etc. Donc c'est par exemple la façon dont se met en place le management au guichet. Et ensuite, il y a aussi plein d'autres choses qu'il faudrait détailler, hein, mais sur les modes de changement, enfin les évaluations dont font l'objet les guichetiers, qui sont individualisées, de moins en moins formalisées, les formes de promotion qui sont de plus en plus arbitraires, enfin tout un ensemble de critères qui autrefois encadraient les carrières et le travail qui sont auxquels se substituent des appréciations très vagues en termes de compétences, etc. Donc ce qu'on voit aussi ailleurs, mais
Et ça, en fait, c'est comme dans le privé, c'est-à-dire ils sont soumis à des... soumis, c'est peut-être pas le mot, mais ils participent à des conférences, des réunions, des formations, etc., où on leur fait voir ces pratiques de management.
L'encadrement, tu veux dire ?
Oui, même les guichetiers, par exemple, ils sont...
Alors, les guichetiers à la poste, ils ont des formations assez courtes. Hein. Ils passent pas beaucoup de temps en formation. Mais voilà, en fait, le temps de formation, c'est avant tout une demi-heure le matin avant de commencer ou des choses comme ça. Alors, sauf pour ceux qui sont jugés Alors, à l'époque, il disait être de la graine de COFI, donc de la graine de conseiller financier. Ceux-là, ils ont droit à des formations plus poussées parce qu'un grand avenir s'offre à eux, donc être passé du côté financier et commercial. Donc là, on peut avoir des formations plus longues. Mais en termes de formation, j'ai observé des formations beaucoup plus approfondies à la mairie. Et donc, à la mairie, donc je disais tout à l'heure, il n'y a pas une volonté de redéfinir sur un mode commercial le travail. Hein, il y a d'autres mairies qui ont apporté un petit peu, comme à la Poste, le Brasma ou le SBAM, donc sourire, bonjour, au revoir, merci. Enfin bon, il y a plein de variantes, quoi. Il y a des mairies qui font des formations SBAM pour leurs agents de guichet. Là, dans cette mairie, c'était considéré comme vraiment la pire formation possible, donc il fallait former les agents pour leur donner des outils, les armer, etc. Donc les formations étaient plus longues, mais on assistait aussi à la transmission de tout un ensemble de techniques inspirées de théories de la communication plus ou moins fumeuses, mais qui visaient quand même à augmenter la productivité, améliorer la performance, etc., mais sous un mode plus doux que ce qu'on pouvait voir à la Poste, et avec aussi d'autres composantes qui, là, font appel à une autre dimension des réformes dans ces quartiers et dans ces communes dites défavorisées. Donc, il s'agissait de former les agents à s'adresser à un public difficile, hein, parce qu'en général, le public dit en difficulté est vite considéré comme un public difficile. Et donc, apprendre aux agents à gérer l'agressivité, par exemple, ou à s'adresser au public des autres cultures. Et là, tout un ensemble de formations qui visent vraiment à différencier les publics entre eux, donc selon leur niveau de précarité, selon leur origine supposée, hein, en général, au vu du faciès des usagers. Et donc là, une autre forme de redéfinition du travail au guichet, alors censée amener une meilleure compréhension par les agents des difficultés des habitants, mais créant là aussi des formes de distance et de méfiance parfois assez fortes.
Voilà, on est toujours avec Yasmine Ciblot et on est sur Fréquence Paris Pluriel.
Il parcourait la ville, les oreilles dans le vent, apportait aux familles le courrier en souriant. C'est un bien gentil et tout plein de bonheur, un peu de la chopine, normal pour un facteur. Mais pas d'histoire sans drame, car il a épousé une bien moche femme qui lui pompait son blé. Mais pas d'histoire sans drame, car il a épousé une bien moche femme. Il n'a touché sa femme qu'une seule fois dans sa vie, lui a mis une rafale, lui a fait trois petits. 2 ans de gestation pour 3 affreux bébés, si tu fais l'addition, 3 mois il a gagné. Naquirent alors 3 sœurs, pas tout à fait jolies, quand tu penses à leur mère, t'es beaucoup moins surpris. Naquirent alors 3 sœurs, pas tout à fait jolies, quand tu penses à leur mère, t'es beaucoup moins surpris. Il s'écoula du temps, s'y est habitué, le facteur est maintenant sous-chef au PTT. Ils boivent toujours autant, elles ont peu évolué, elles ont toutes 20 ans, normal pour les tripler. Moi qui ne suis pas en quête de difficulté, sous ma grosse couette, les 3 j'ai essayé. Moi qui ne suis pas en quête de difficulté, sous ma grosse couette, les 3 j'ai essayé. La première fut pas bavarde, je ne lui ai rien demandé, si ce n'est que d'éteindre, je voulais pas dégueuler. La seconde était trop grosse, j'ai failli étouffer. Ça ne sentait pas l'eau de rose, fallait bien essayer. Oh. La dernière fut la pire, c'est là que j'ai pris mon pied. Si ça vous fait sourire, je n'ai rien regretté. La dernière fut la pire, c'est là que j'ai pris mon pied. Si ça vous fait sourire, je n'ai rien regretté. Et j'ai pris la plus moche pour pas me la faire voler. Je la sors pas le dimanche, je veux pas me faire remarquer. Puis elle est fonctionnaire, et c'est un beau métier. Elle assure mes arrières, c'est la sécurité. Moi je vais à la pêche, et je joue au tiercé. Parce que la vie est belle, avec les PTT. Moi je vais à la pêche, et je joue au tiercé. Parce que la vie est belle, avec les PTT. We'll be right back.
Bonjour Madame Ciblot, nous avons bien retenu le brassement. Auriez-vous l'amabilité de nous dire, en regard, donc on avait invité Sylvie Tissot il y a quelques semaines de ça, qui nous avait parlé donc de son enquête sur les quartiers populaires et qui nous disait, bon, maintenant on a une manière d'appréhender les quartiers populaires un peu particulière, où on territorialise donc les questions sociales plutôt que de les renvoyer à des conflits de classe sociale, etc. On les renvoie à des logiques d'espace, quoi, donc, en désignant des quartiers, comme tu disais tout à l'heure, qui semble constituer des problèmes et qui de fait les constitue pour les autres apparemment. Et dans ton enquête aussi sur les services publics, on voit qu'il y a toute une série de mesures qui sont prises et qui sont encore pour le coup spécifiques aux quartiers populaires et qui rejoignent un petit peu le management, le nouveau management dont tu parlais il y a 5 minutes. Quoi.
Oui, alors je pense qu'il Dans les dimensions des réformes concernant les services publics dans les quartiers populaires, il y a plusieurs dimensions qui se croisent. Ce qui m'avait vraiment intéressé dans le travail de Sylvie Tissot, puis on avait un peu réfléchi à ça ensemble, c'est qu'il y a des choses apparemment contradictoires qui vont finalement très très bien se compléter et se combiner. C'est toute la dimension managériale de ces réformes. L'idée selon laquelle les institutions publiques sont de moins en moins efficaces, sont coûteuses, qu'il faut réformer la bureaucratie, la faire reculer, etc. Donc une vision surtout basée sur des analyses économiques en termes de coûts et d'efficacité, de performance, etc. Et de l'autre côté, des analyses donc spécifiques à ce cadre de vision des problèmes sociaux qui est devenu celui de la politique de la ville. Donc l'idée qu'il y a des populations spécifiquement en difficulté dans des quartiers particuliers, que ces populations sont victimes de toute une série de formes d'exclusion. Donc Sylvie a bien montré comment ce modèle se cristallise, par exemple à travers toute une batterie d'indicateurs statistiques qui sont censés révéler le cumul des handicaps subis par les populations dans ces quartiers. Donc il y a ce cumul de handicaps, il est à la fois économique, il est à la fois culturel, mais on va trouver aussi dans les indicateurs de cumul de handicaps la part d'étrangers. Donc l'immigration apparaît aussi comme un problème inhérent à ces quartiers. Donc dans les politiques de réforme des services publics, à partir du milieu des années 90, on va voir se développer de plus en plus un volet spécifique visant à adapter les services à ces populations des quartiers de la politique de la ville. Alors avec apparemment plein de bonnes intentions sur le fait que face à ces populations spécifiques affligées d'un cumul de handicaps, il faut mettre en place des services qui vont les aider particulièrement à surmonter ce cumul de handicaps et qui vont de plus en plus s'apparenter à des services sociaux. Alors quand on y regarde de plus près, en fait, le volet managérial des réformes et ce volet social sont complètes extrêmement bien. Alors d'abord parce que toute l'analyse du rôle des services publics dans les quartiers de la politique de la ville, elle vise à souligner que ces services doivent avoir un rôle de cohésion sociale, mais elles insistent aussi beaucoup sur le coût que représentent les services dans ces quartiers de la politique de la ville. Donc on retrouve assez vite des enjeux financiers et économiques qui sont aussi à la base des analyses de type managérial. Et puis aussi, il y a l'idée que la bureaucratie traditionnelle, celle qui il est bien connu qu'elle dysfonctionne, celle des fonctionnaires à l'ancienne, etc., n'est pas à même de rendre le service correctement à ces populations. Donc il faut inventer d'autres solutions. Et donc là, aussi bien les réformateurs qui s'en prennent à ce qui serait l'administration archaïque, etc., dans les stéréotypes, et ceux qui s'intéressent au quartier de la politique de la ville, trouvent un terrain d'entente immédiat. Il faut à la fois faire des services spécifiques et des services d'un type nouveau qui seront en dehors du cadre traditionnel de l'administration publique. Et donc, on va essayer d'inventer des formes nouvelles, notamment associatives, polyvalentes, etc. Et donc là, on voit vraiment que ces deux lignes de réforme sociale et managériale se recouvrent complètement et apparemment contradictoires, en fait, se complètent. Alors, ce qu'il y a en commun dans ces deux angles de vision, c'est qu'elles vont avoir une vision extrêmement réductrice du fonctionnement des services de l'autre, d'un côté, et des pratiques des habitants et des situations des habitants de l'autre. Donc il y a eu toute une littérature administrative, institutionnelle, hein, une commande institutionnelle à des bureaux d'experts divers et variés, qui a vu le jour dans les années 90 sur les services publics dans les quartiers populaires. Et si on regarde un peu de près alors ces rapports ou ces enquêtes ou ces collectifs ou ces actes de colloque, etc., bon, on va retrouver toute une série d'experts qui sont aussi des experts de la politique de la ville, qui sont aussi des spécialistes de sociologie des organisations, spécialistes de la réforme de l'administration, etc. Et on va retrouver un peu toujours le même schéma d'analyse concernant ces populations. Ces populations sont décrites uniquement donc, avec ces batteries d'indicateurs sur le cumul de handicaps économiques, sociaux, culturels, la part d'étrangers, etc. Alors, en réalité, si on regarde de plus près, on se rend compte que dans toutes les enquêtes qui se mélangent dans ces rapports, il y en a qui sont un petit peu moins globalisantes que d'autres, mais la logique de ces rapports est de produire une image globalisante, et donc les conclusions qui en ressortent, les synthèses qui en ressortent, elles décrivent toujours de façon extrêmement misérabiliste les populations des quartiers populaires, avec donc ces fameux indicateurs. Et donc, du coup, la description de leur rapport aux administrations se fait un peu toujours sur le même mode. Donc, ces populations qui sont victimes d'un cumul de handicaps sont toujours en difficulté face aux administrations. Donc, on va souligner le poids des incompréhensions, de la complexité des démarches, etc., avec également une dimension un peu morale sur le fait qu'il y a des formes d'humiliation dans les services, etc. Mais très rapidement, on va dépeindre aussi les relations de ces populations avec les services comme étant marquées par des formes de tension, par des formes d'agressivité. Donc ça aussi, ça va être une thématique qu'on va retrouver très fortement. Alors là aussi, sur l'histoire de l'agressivité, c'est à la fois les populations qui sont agressives, voire dangereuses envers les services, mais c'est aussi les agents, ces vieux agents du service public archaïque qui ne savent pas s'y prendre, qui sont trop rigides, etc. Donc on va retrouver à chaque fois les deux dimensions dans ces constats, avec une vision donc, qui, de toute façon, la commande de ces rapports donne elle-même la réponse qu'ils doivent apporter. Et donc, la réponse qu'ils doivent apporter, c'est la thématique de l'adaptation des services publics dans ces quartiers. Il faut faire des services nouveaux, qui soient de moins en moins des administrations, mais de plus en plus des structures nouvelles, et qui traitent de façon différente les populations de ces quartiers de ce que font les services dans les quartiers dits normaux, de centre-ville, dans les petites villes, etc. Et donc là, ça dépend des institutions et des types de services, hein, mais ce schéma global, il va se décliner de façon assez récurrente. À La Poste, par exemple, c'était particulièrement frappant. Hein. La Poste s'est vraiment engouffrée et dans les réformes managériales de façon précoce et dans ses réformes dans le cadre de la politique de la ville. Alors, pour des raisons au départ très simples, c'est que ça lui permettait de toucher des subventions assez conséquentes, hein, au titre du dédommagement que représente le fait d'avoir des bureaux dans ces quartiers de la politique de la ville. Et puis ensuite, dans le cadre d'une analyse où on a deux types de bureaux. Hein. Il y a les bureaux, entre guillemets, normaux, même si le terme n'apparaît pas comme tel, où on va pouvoir avoir un service commercial le plus poussé possible, faire du brassement à tous les étages, rénover les bureaux avec vendre des nouveaux produits, etc., y compris non postaux. Hein. Maintenant, là, ça, c'est complètement d'actualité. Et puis, de l'autre côté, des bureaux donc, coûteux, mais où la Poste se doit de rester. Et donc, on va développer la polyvalence, s'allier avec d'autres services, avoir un personnel spécifique, alors qu'il ne sera pas forcément fonctionnaire, mais de toute façon, à la Poste, ça fait un moment que c'est fini, qu'il ne sera pas forcément qualifié, mais est-ce que c'est bien ça qui est nécessaire, etc. Et donc là, une vraie redéfinition. Et donc là, on voit bien que les deux volets des réformes se recouvrent bien.
Et c'est un service au rabais ou c'est un service qui fait autre chose quoi, dans le fond?
Alors, la seule façon d'y répondre, c'est de regarder vraiment ce qui se fait, puisque à première vue, on ne peut pas préjuger du fait que ça sera un service au rabais, même si on voit bien que le poids des enjeux financiers fait que de toute façon, ça sera un service qui, en aucun cas, s'accompagnera de moyens supplémentaires. Or, on sait bien que, enfin, on sait bien, c'est assez facile à mesurer. Hein, c'est les services, si on prend l'exemple de la Poste, mais ça vaut pour d'autres services administratifs. Les services dans les quartiers d'habitat social sont très fréquentés, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc déjà, le premier élément d'une forme d'adaptation, ça serait une adaptation en termes de moyens, de personnel, de taille des locaux, etc. Donc ça n'est pas à l'ordre du jour, hein, puisque ça serait une solution à l'ancienne. Et là, il faut inventer des nouvelles formes innovantes. Mais ensuite, alors, il faudrait vraiment regarder de très près ce qui se passe, hein, mais il y a toute une série d'indices qui laissent vraiment penser qu'il y a une dégradation qui s'opère. Alors d'une part, malgré les bonnes intentions, par exemple à la Poste, il y a tout un discours sur le fait que les agents doivent se sentir un peu investis d'une mission particulière dans ces bureaux, comme en même temps ils doivent travailler toujours plus vite, vendre des produits qui n'intéressent personne dans ces quartiers, etc. De toute façon, cette intention d'accorder une attention particulière aux populations n'est pas vraiment suivie d'effet. D'autre part, comme les formations qui sont délivrées aux agents, alors par exemple les formations sur comment gérer l'agressivité, qui se sont vraiment généralisées à tous les services publics. Alors peut-être aussi que ça, c'est des formations qui se pratiquent dans des entreprises privées dans ces quartiers, hein, c'est possible. Mais en tout cas, que ça soit la Poste, la mairie, les services sociaux, tout le monde a ses formations, comment gérer l'agressivité, où là on va retrouver alors le schéma du cumul du handicap, mais sous une lecture alarmiste, le cumul du handicap conduit à l'agressivité, la précarité conduit à l'agressivité, et donc il faut que l'agent apprenne à se protéger. Donc si on met en place ce type de formation, même si les agents sont en fait assez sceptiques en général vis-à-vis de ce qu'on leur raconte, ça produit quand même au bout d'un moment le sentiment de faire le sale boulot, quoi. Donc bon, on sait que c'est pas forcément des quartiers où les agents ont envie de faire carrière, mais là c'est encore plus accentué, hein. Donc il y a un turnover extrêmement fort. Moi, 2 ans après le début de mon enquête, hein, dans le bureau de poste où j'ai enquêté, où il y avait à peu près 10 guichetiers, il en restait 3. Et 4 ans à la fin de mon enquête, il restait pratiquement plus personne. Hein, quand j'ai voulu aller rendre compte du résultat, montrer mon livre, il n'y avait plus personne. Donc ils m'ont dit, bah, écoutez, on leur dira. Hein, mais voilà, donc c'est un effet assez impressionnant. Alors après, il y a une chose que moi, je n'ai pas observée en détail, qui est la mise en place des structures de type maison des services publics ou point, alors je ne me rappelle plus le sigle, c'est PIMS, point de je ne sais pas quoi, multiservice. Donc l'idée, c'est que plutôt que de multiplier les administrations et d'obliger les gens à se déplacer, on va créer une antenne administrative où seront présents plusieurs agents, voire des agents polyvalents, où on pourra faire des opérations concernant les allocations familiales, concernant la Poste, concernant la Sécu, voire la préfecture ou la mairie, enfin, selon les alliances locales entre institutions. Alors, les endroits où ça a été mis en place, en général, on constate que ça s'accompagne par la fermeture des points administratifs qui existaient avant, donc par encore moins d'offres administratives et d'offres d'accueil, et par le fait qu'on a affaire à un personnel qui est moins bien formé qu'auparavant, parce que c'est extrêmement dur à gérer. Enfin, chaque administration a ses spécificités, et donc là, finalement, ça fait une présence institutionnelle, mais qui ne va pas du tout pouvoir remplacer la multiplicité des services. Et donc finalement, il faudra encore se déplacer pour aller dans le centre CAF, à la préfecture, à la mairie, etc. Donc malgré le fait que on ne peut pas préjuger toujours de la dégradation qui va avec ce type de réforme, on peut quand même se dire que tout ce qui s'est déjà mis en place dans ce sens est plutôt inquiétant et va plutôt dans le sens d'un service au rabais et d'un service par ailleurs qui va plutôt dans le sens d'une moindre considération accordée aux populations de ces quartiers par les institutions.
Alors moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter un certain nombre de bureaux de poste dans, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, à Bobigny, à Drancy. C'est quand même le point commun de ces bureaux de poste, c'est qu'il faut prévoir une bonne heure pour aller acheter un carnet de timbres et que c'est effectivement, c'est assez incroyable le temps d'attente qu'il faut et la tension qu'on peut percevoir dans ces endroits-là. Et c'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est pas partout, y compris, on n'a pas le même rapport à sa poste quand on habite à l'Île-Saint-Louis que quand on habite à Bobigny.
Alors ça c'est on peut le lire dans plusieurs sens, cette histoire de qu'on n'a pas le même rapport à sa poste à l'Île-Saint-Louis ou à Bobigny, parce qu'on va beaucoup moins souvent à la poste aussi a priori quand on habite à l'Île-Saint-Louis, hein. Le fait que les on a moins de livrets A, on a moins de CCP, hein, donc c'est le fait que les habitants des quartiers d'habitat social aient très très souvent leur compte bancaire à la poste joue vraiment beaucoup dans la fréquentation, y compris, comme tu disais, le fait que les gens aient des livrets A. Donc, alors, au fil du temps, il y a de plus en plus de titulaires de livrets A qui ont des cartes de retrait, qui peuvent aller au guichet automatique, etc. Mais il y a de toute façon toute une série des opérations sur livrets A qui ne peuvent se faire qu'au guichet. En plus, moi, une des choses que j'ai compris en faisant l'enquête, hein, c'est qu'il y a une partie des titulaires de ces livrets, hein, notamment des personnes âgées ou des personnes âgées immigrées, mais pas seulement immigrées, qui sont assez attachées au livret A papier, parce qu'au moins on sait exactement combien il reste sur le compte, etc. Donc, qui vont aller au guichet pour des opérations très fréquentes. Donc, c'est beaucoup ça qui fait l'affluence et la fréquentation dans les bureaux. C'est aussi le fait que il y a une partie de la population dans ces quartiers qui est... dont les ressources sont en grande basée sur des prestations, donc qu'elles soient versées par la CAF ou par les ACEDIC, avec des ressources très restreintes, donc qui vont venir pendant les périodes de versement de ces prestations en grande affluence. Hein. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'effectivement l'affluence est plus forte, hein, dans ces quartiers. Donc c'est vraiment une chose qui est rarement prise en compte par la Poste dans ses calculs, hein, puisqu'elle... on trouve dans toute une série de rapports un calcul qui est que le nombre de bureaux de poste par habitant est plus important dans les zones urbaines sensibles, puisque ça, c'est une des catégories de la politique de la ville qu'ailleurs. Mais ce qui compte, ce n'est pas le nombre de bureaux ou de guichets par habitant, c'est le nombre de bureaux et de guichets par habitant qui fréquentent le bureau, quoi. Il faut vraiment prendre en compte les pratiques différentes selon les quartiers et selon les milieux sociaux. Et là, il y a vraiment une affluence très forte. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette affluence, bon, les jours de versation des prestations, de versement des prestations, elle crée vraiment une tension parce qu'il y a des, enfin, tu dis une heure, ça peut être même plus long. Hein. Donc c'est une attente assez pénible. Donc il y a toujours des micro-conflits entre les habitants, etc. Mais la plupart du temps, c'est pas si tendu que ça. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut essayer de comprendre. Alors après, tout est une question de degré, hein, dans la perception de la tension. Mais moi, je trouve qu'une des choses qui frappante dans ces bureaux très fréquentés, sous-dotés en personnel, etc., c'est que aussi bien les usagers que les salariés contribuent à ce que les conflits soient finalement assez rares, quoi. Les employés dans leur façon de travailler. Alors... les employés ne sont pas tous pétris d'une vocation sociale, hein, même assez rarement. Il y en a un certain nombre qui apprécient le travail au contact du public, une autre partie qui trouve ça extrêmement pesant. Mais tous ont le souci de faire en sorte que les opérations se déroulent relativement vite. Et il y a une partie d'entre eux qui a vraiment mis en place toute une série de formes d'aménagement des règles de travail qui font en sorte que ça va plus vite, que c'est toute une série de désagréments liés aux opérations financières, au fait que les gens n'ont plus d'argent parfois, etc., soient atténués. Hein. Donc là, dans ces bureaux où les gens viennent souvent, c'est aussi des bureaux où les gens connaissent plus les employés de guichet. Et ça change pas mal le type de relation qui se noue. Hein. Donc tu disais, c'est pas la même chose d'avoir sa poste à un endroit qu'à un autre. Je pense qu'à Saint-Louis, les gens ils disent pas c'est ma poste, quoi. Ils y vont pas souvent et ils ont une indifférence assez forte au bureau de poste. Là, dans le quartier où j'ai enquêté, peut-être dans les quartiers que tu connais, c'est moi j'ai entendu très souvent les gens dire ma poste ou mon bureau de poste. poste, puis qui vont à ce bureau, qui connaissent un certain nombre des guichetiers, qui vont apprécier ou pas, mais peu importe. Hein. Donc, qui vont avoir des échanges de politesse qui dépassent un petit peu le strict cadre professionnel. Ils peuvent parfois se voir rendre des petits services s'ils ont oublié leur carte d'identité, etc. Donc, tout ça, ça va contribuer à désamorcer tout un ensemble de tensions. Et les relations entre les habitants, elles sont aussi basées sur des formes d'interconnaissance locale qui sont pas exclusives aux quartiers d'habitat social, mais qui sont plus importantes dans ces quartiers-là que dans des quartiers de centre-ville. Donc il va y avoir aussi des discussions de voisinage, de politesse, des rencontres dans la salle d'attente qui vont faire qu'on ne fait pas que attendre tout seul en s'impatientant. Et donc je pense que c'est important de voir aussi cette dimension-là pour comprendre le rôle d'un bureau de poste dans ce type de quartier.
Et puis c'est peut-être aussi parce que sur l'île Saint-Louis, les gens, ils n'ont pas des amoureux et des amis, ils ne leur envoient pas des lettres.
Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui, éclater un type des acédiques. Un bien combourné mais qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Surtout un qui me sort des excuses en bois pour ne pas lâcher le blé qu'il me doit tous les débuts de mois. Je ne sais pas ce qui me retient de la mocher. Les jours où je suis fauché, lui décocher un crochet. Le premier pour atténuer sa haine qui mijote en lui quand il bloque sur mes chaînes. Ça ne manque pas à chaque fois car selon lui, si je suis ici, je suis forcément un clochard. Un qui me parle mal et qui m'envoie chier 5 fois à la maison chercher des papiers pour me scier. Qui me sort des erreurs plus que louches pour ne pas que je touche comme si je lui enlevais le pain de sa bouche. Fils, si tu ne veux pas m'énerver, raque-moi les fonds pour les 3 ans où j'ai cotisé. Ce spécimen n'est pas unique et malheureusement depuis, une seule idée magique, je rêve d'éclater un type des acédiques, oui. Éclater un type des acédiques, un bien comborné qui peut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Des acédiques, je rêve d'éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon feu. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Je travaille 12 à 18 heures par jour. Un certain aléatoire est mon parcours. Mais quand il sonne à 9h chez moi, là c'est trop. Puis je me dis que lui aussi fait son boulot. 2 heures après, je descends pour chercher mon courrier. Là commence le premier courroux de la journée. J'habite au premier, est-ce trop fatigant? Je trouve un avis de passage motif absent. Mon colis est parti plus vite qu'avec Ghost. Et moi comme un pigeon, je fais 1 heure de queue à la poste. Pense désormais quand tu appuies sur ma sonnerie que tu peux morfler pour ce genre de conneries. Plus tard, je prends le bus, plus ou moi alors, essaie de me calmer après le regard du chauffeur. Un vieux maghrébin fait un signe pour monter. C'est à ne battre, s'arrête 15 mètres après l'arrêt. J'ai eu mal au cœur, pas mal de haine aussi. Le vieillard est monté et lui a même dit merci. L'arrêt d'après, les contrôleurs ont investi le bus en civil travesti. Sans dire bonjour devant moi comme un piquet d'une voix sèche, il m'a dit le ticket. Les hommes ont un langage afin de communiquer. Et pour la politesse, ils ont créé, s'il vous plaît. Tu voudras bien le dire quand tu vois ma face, ok. Sinon, ticket peut donner un taquet. Je déteste tous ceux qui se prennent pour des flics. Je ne suis pas méchant, mais le respect se mérite. Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui. Éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un type des acédiques. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Je descends du bus juste en face de moi, le bâtiment farci de gus et plein d'astuces. Faire des embûches, je sais pertinemment qu'économiser est une consigne du ministère. Il y a 4 ans, ils m'ont laissé sans un franc, quand leur patrimoine personnel est un mystère. Le haut de l'État me ramène à la raison. Les plus grands voleurs ne sont toujours pas en prison. Écoutez ces mots, un sourire, non, ce serait trop beau. Ils sont réglés et nous parlent comme à des robots. J'en ai assez de faire les frais de l'humeur de ces gens, je le sens, je vais casser des dents. Que les dans ces professions m'excuse, mais c'était un devoir de parler de ceux qui abusent. Il fut un temps, j'étais diplomate et passif. Je suis agressif avec les écorchés vifs. Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui. Éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un type des acédiques. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Éclater un type des acédiques. Éclater un type des acédiques. Éclater.
des acédiques. Éclater un type des acédiques.
You win. Ça, c'était la vision des services publics de Jérémy. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et on reçoit aujourd'hui Yasmine Ciblot. Tu parles dans ton travail du rapport des classes populaires aux services publics, mais tu précises évidemment que ça serait quand même une vision qui n'aurait pas de sens de voir les classes populaires comme des gens, comme ça, une espèce de unique, et tu montres bien qu'il y a des rapports très très différenciés au sein même de cette classe populaire, entre guillemets, et avec justement des rapports, y compris très différenciés aux institutions publiques.
Alors, effectivement, un des enjeux des enquêtes un peu approfondies sur les classes populaires aujourd'hui, c'est d'aller à l'encontre des visions qu'on retrouve dans le cadre de la politique de la ville ou plus généralement dans les politiques sociales aujourd'hui, hein, qui contribuent à donner une vision très homogène des populations dites défavorisées. Donc c'est un enjeu quand même, je pense qu'il y a aussi un enjeu politique, hein, mais c'est en termes de recherche, il s'agit de tenir ensemble des choses qui peuvent paraître pas forcément tenables, hein. C'est arriver à défendre l'idée que maintenant la société actuelle, il y a toujours des clivages de classe forts, hein, et qu'il y a des groupes qu'on peut caractériser comme étant des classes populaires qui ont vraiment en commun le partage de conditions d'existence qui font qu'elles subissent des formes de domination économique fortes. Des formes de domination culturelle également importantes, hein, dans l'accès aux études, dans l'accès aux loisirs, à tout un ensemble de pratiques culturelles, et des formes de domination symbolique qui sont aussi liées à la désaffection politique de tout un ensemble de partis dits de gauche envers les groupes dominés, hein. Donc je pense au travail récent de Rémi Lefebvre et Frédéric Savicky sur le PS et comment le PS est totalement désintéressé des groupes populaires depuis les années 80, mais à mon sens le PC aussi en partie, on peut dire qu'il y a tout un ensemble d'acteurs, d'organisations politiques et syndicales qui ont joué un rôle dans le maintien d'identité ouvrière et populaire et qui s'en sont détournés, donc ça contribue aussi à une forme de disparition dans les représentations de ces groupes. Et pour autant, ce qu'essaie de montrer donc tout un ensemble de travaux récents, hein, je pense aux travaux de Michel Pialou, de Stéphane Beau, ou d'Olivier Schwartz ou d'autres auteurs, hein, vraiment, c'est pas les seuls à travailler là-dessus, c'est que ces formes de séparation des groupes populaires à l'égard des classes moyennes, des classes supérieures, elles restent fortes. Et en même temps, il y a des transformations vraiment importantes qui affectent ces groupes. Donc j'ai évoqué un peu les transformations liées au recul de la prise en charge, de la mise en forme politique des représentations de ces groupes. Mais c'est aussi des processus extrêmement divers et qui partent dans tous les sens, qui transforment ces groupes. Hein. C'est le poids du chômage et de la précarité d'un côté qui va contribuer à affaiblir ces groupes, à les diviser, à les cliver, hein, à faire que les clivages entre Français immigrés, entre jeunes et vieux, etc., entre hommes et femmes sont de plus en plus aigus. Mais c'est aussi des évolutions qui vont un peu en sens inverse. On pense à l'augmentation du niveau de diplôme, l'allongement des scolarités, hein, qui a des effets assez complexes, hein, mais en tout cas qui va contribuer aussi à affaiblir les formes de domination culturelle pour une partie de la jeunesse populaire, même si c'est pas toute, c'est quand même important pour une bonne partie d'entre elles. Il y a aussi des transformations qui peuvent paraître moins spectaculaires, mais l'accès à la propriété en milieu populaire s'est fortement accru, hein, même s'il est loin d'être majoritaire. Ça aussi, ça induit des transformations de mode de vie non négligeables, et aussi de perception de soi et de sa position dans l'espace social. Le fait qu'il y a de moins en moins de coïncidence entre lieu de résidence et lieu de travail, etc. Enfin, vraiment des transformations qui font qu'on ne peut pas nier qu'il y a un éclatement, une diversité de plus en plus grande au sein de ces groupes populaires qui ont en commun une condition sociale qui fait que parler de classe a toujours du sens, hein, je pense, et je pense que les enquêtes en attestent bien. Donc, moi, à travers la question des rapports aux administrations, j'ai retrouvé vraiment ces deux dimensions, c'est-à-dire que dans le quartier dans lequel j'ai enquêté, j'ai retrouvé une grande diversité de situations. Hein, donc il ne s'agit pas d'étudier les classes populaires en général, il s'agit d'un quartier de banlieue parisienne, donc des classes populaires urbaines vivant dans un quartier d'habitat social. Mais si on regarde de près un quartier d'habitat social, c'est jamais homogène. Hein, donc là, c'est un quartier qui comporte... trois grosses cités, chaque cité a son histoire, son mode de peuplement, c'est pas tout à fait les mêmes fractions de classe qui y habitent, qui ont pas forcément les mêmes ressources et les modes d'accès à l'habitat sont pas les mêmes. À côté de ces trois cités, il y avait tout un ensemble de petits pavillons anciens qui sont toujours présents, qui sont des pavillons assez modestes où on va retrouver des familles qui sont d'origine populaire et qui en sont encore très proches par pas mal de leurs conditions de vie et puis de la façon dont ils se perçoivent et par leurs pratiques. Hein. Et donc là, dans un quartier, alors ce quartier à l'échelle de la commune, c'était a longtemps été considéré comme le quartier dangereux et sensible, mais si on le regarde de près, on se rend compte qu'il recouvre en fait un ensemble de micro-quartiers assez divers. Et donc là, à travers une enquête qui est pourtant, j'ai passé du temps, hein, mais j'ai pas habité dans ce quartier, donc j'en avais pas une connaissance intime et personnelle, mais en rencontrant de façon répétée sur le long terme des familles donc qui fréquentaient les différents services ou des gens qu'on m'a présentés au sein du voisinage, etc., j'ai perçu vraiment la grande hétérogénéité, la grande diversité des situations au sein de ce quartier globalement marqué par ses caractéristiques populaires. Et donc, à travers les rapports aux institutions et aux administrations, hein, puisque je me suis limitée à ça, on va vraiment prendre la mesure à la fois de la situation commune à ces ménages, à ces habitants de quartiers populaires et de toutes les petites différences, les différences de ressources qui vont faire qu'ils ne vont pas avoir les mêmes... possibilité de faire valoir leurs droits par rapport aux administrations, de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Et ça m'a paru extrêmement saillant, hein, c'est-à-dire que là, dans l'ensemble des familles auprès desquelles j'ai enquêté, donc auprès de tous ceux qui ont bien voulu se prêter à l'enquête et me voir plusieurs fois, me recevoir chez eux, etc., j'ai essayé à la fois donc, déjà de parler longtemps des relations aux administrations, d'accompagner les gens dans les services, etc., mais aussi de passer du temps à la maison pour regarder comment les gens classent leurs papiers, qui fait les différents papiers, comment les parents et les enfants, ou au sein du couple, les gens s'entraident pour faire ces documents, est-ce qu'il y a des personnes extérieures qui interviennent, etc. Et donc là, on se rend compte que il y a vraiment des situations de gens pour qui le rapport aux administrations est un calvaire permanent. Hein. Donc, c'était très présent dans les relations d'enquête aussi. Hein, des gens qui, déjà, j'ai eu pas mal de refus de gens pour qui le thème des relations aux administrations c'était quelque chose de suffisamment désagréable et un rappel à des situations d'humiliation assez fortes pour qu'on n'ait pas envie d'en parler plus. Mais aussi des gens qui se prêtaient un peu à l'enquête au début et puis que l'évocation des relations aux administrations mettait dans des états d'angoisse terribles, hein, et qui au bout d'un moment voulaient arrêter l'entretien ou refusaient de me voir parce que c'était un rappel de toutes les difficultés rencontrées. Et moi, ce qui m'a frappée vraiment, c'est... donc j'ai évoqué essentiellement les relations à des administrations... qu'on peut définir comme plus ordinaire, hein, donc délibérément, donc je me centrais sur la CAF, la mairie, la Poste, par exemple, même si, c'est évidemment, ça nous arrivait de parler des relations à la préfecture ou à la police ou à la justice, c'était pas le cœur de mes entretiens, je voulais parler plutôt de relations plus routinières, y compris des relations assez banales avec la Poste ou des démarches très fréquentes et répétitives à la CAF. Les gens me racontaient comment à chaque fois c'était une source d'angoisse, une source de difficulté, une source d'erreur, des retards dans le versement des prestations ou une impossibilité à les obtenir, etc. Et que les gens vivaient ça d'autant plus mal qu'ils avaient l'impression que c'était sans censé être facile, quoi, que les autres y arrivaient, pourquoi eux n'y arrivaient pas.
Et ils renvoyaient ça plutôt à leur propre incapacité ou à une mauvaise volonté des personnels, des administrations, des choses comme ça ?
Il y avait un petit peu des deux, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'était plutôt un sentiment presque de honte, quoi, pour certains de ne pas arriver à s'en sortir, quoi, face à ces démarches. Mais ces cas particulièrement douloureux, ils sont vraiment loin d'être majoritaires dans la plupart des cas. Donc moi, je devais arriver avec des préjugés peut-être un peu misérabilistes. Hein, donc je posais beaucoup de questions sur les contraintes, la difficulté, les mauvais traitements par les agents, etc. Et souvent, les gens étaient un peu étonnés par ces questions-là. Ils me disaient, mais quand même, c'est pas si terrible que ça. Et puis, quand même, on fait face, on y arrive. Et les gens me disaient, on arrive bien à se débrouiller. De toute façon, on n'a pas le choix. On se débrouille dans les administrations. On y arrive. Et donc, en fait, là, la plupart des situations que j'essaie d'analyser, c'est comment des familles qui, où les gens n'ont pas forcément fait d'études longues, hein, notamment les parents, ou qui ont des faibles ressources et donc pas mal de démarches avec des services sociaux à accomplir. Parfois, les parents sont étrangers, donc là aussi des démarches supplémentaires. Donc des familles dont on pourrait penser qu'elles vont être confrontées à toutes ces difficultés, etc., ben finalement, arrive à faire la plupart des démarches qu'ils ont à faire, à obtenir la plupart des prestations et des statuts qui leur sont utiles ou qui sont obligés d'acquérir, par tout un ensemble de mobilisations, de ressources qui sont à première vue pas très efficaces, mais qui finalement vont être tout à fait opérantes. Et donc ça va être le fait de garder par exemple des copies de courriers pour pouvoir s'en resservir, demander des conseils à des voisins, à des membres de notre famille qui ont déjà fait telle ou telle démarche pour se les faire expliquer, se faire accompagner, rien que se faire accompagner dans un service. Déjà, les gens savent que ça va pas mal faciliter la démarche. Déjà, on sera moins susceptible de s'énerver ou d'être trop tendu. On pourra s'appuyer sur la personne qui est là, etc. Il y a aussi la mobilisation de toute une série de savoir-faire a priori étrangers au monde de l'administration, mais mobiliser des savoir-faire professionnels. Alors par exemple, je me rappelle un entretien avec un brancardier, avec justement qui m'avait dit, vous savez quand même les administrations, je me débrouille. Il me disait, vous savez, je suis brancardier, mais quand on est brancardier, on doit lire des papiers à l'hôpital. Donc des papiers, quand même, j'arrive à les lire. De temps en temps, je dois remplir des formulaires aussi dans mon travail. Ben là, c'est pareil. Et donc immobiliser ces savoir-faire professionnels d'un métier qui a priori pas un métier de l'écrit, hein, mais qui lui permettait de se débrouiller dans ses démarches. Et il y a aussi toute la mobilisation des ressources de l'interaction avec les employés. Et ça, c'était à la fois souligné par la plupart des habitants et très, très visible une fois qu'on y prêtait attention dans les interactions. C'est-à-dire essayer de faire appel à des formes d'assouplissement des règles de la part des employés, en particulier quand c'est des gens qu'on commence à connaître, pas forcément très bien, mais qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et donc jouer vraiment sur la situation de face à face, l'oralité de la rencontre au guichet. Et donc là, ça renverse un peu des idées reçues qu'on peut avoir sur la contrainte du guichet. Hein. Il y a souvent, moi j'avais vu ça dans pas mal de travaux et je pense que c'est très fréquent chez les classes moyennes. Hein. Le symbole de la contrainte administrative, c'est le guichet. Et là, pour les gens, c'était pas le guichet, c'était le courrier, par exemple. La lettre qui arrive et qu'on ne comprend pas, c'est bien pire que le guichet où on peut se faire expliquer, où on peut revenir si on a oublié quelque chose, etc. Même si on attend, alors effectivement, si on attend une heure, trois fois par semaine, c'est pénible, mais même si on attend, on préfère y aller. D'autant plus qu'au guichet, alors c'est vrai pour la poste, mais c'est vrai aussi pour la mairie, on va pouvoir rencontrer quelqu'un qu'on va finir par connaître. À la mairie, on va pouvoir rencontrer au bout d'un moment la nièce de la voisine. Ça arrive quand même assez fréquemment hein, dans ces communes où il y a un recrutement local important. Et donc là, une des choses que j'ai essayé de faire, c'est de voir comment les uns et les autres mobilisaient toutes ces ressources qui existent même quand on est relativement démuni scolairement et économiquement. Et là, avec une grande gamme de situations selon les familles, selon les formes de mobilité sociale ou de déclassement que connaissent ces différentes familles. Et donc là, effectivement, toutes ces différences internes aux classes populaires, en termes de scolarisation, en termes de statut d'emploi, en termes de clivage de génération, etc., apparaissent extrêmement fortement.
Alors, toujours sur cette question des classes populaires, en fait, tu montres aussi qu'une partie des agents de ces services sont eux-mêmes relativement proches des positions sociales qu'occupent les bénéficiaires de ces services et que ça crée une situation particulière.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un constat qu'on fait assez rapidement hein, quand on enquête auprès des salariés de ces services d'accueil du public. Contrairement à l'idée qu'on peut avoir qu'il y a les deux côtés un peu du guichet, les salariés un peu nantis d'un côté et la population pauvre de l'autre, on se rend compte que la distance sociale entre eux est parfois assez faible. Donc ça tient à pas mal de choses. Hein. Ça tient au fait que... Donc là, je me suis intéressée au personnel de guichet qui fait l'accueil continue, hein, donc un personnel qui occupe des postes très subalternes, assez peu qualifiés, hein, donc à la mairie c'est le personnel qui occupe les postes les plus bas, hein, c'est des agents de catégorie C, autrefois c'est des agents de catégorie D, une bonne partie est encore recrutée sans concours, et soumis à une hiérarchie assez importante, c'est un personnel qui a assez peu de marge de manœuvre dans l'accomplissement de son travail, même s'il y a tout un ensemble de possibilités d'adaptation qui existent, c'est quand même assez faible. Alors à la poste, c'est un petit peu différent, parce que les guichetiers occupent un grade qui est supérieur à celui de facteur. Hein, ça peut être un lieu de promotion pour une partie des facteurs ou des agents de centre de tri, mais ça reste quand même un grade et des salaires assez faibles. Hein, alors au centre social, pour ce qui est du personnel du centre social, c'est assez similaire, même si pour le personnel de la sécurité sociale et de la CAF, il y a des statuts un petit peu meilleurs. Mais donc on a affaire, en termes professionnels, à des emplois, à un travail d'employé, certes qualifié, hein, si on reprend une distinction entre employés qualifiés et non qualifiés, c'est plutôt des employés qualifiés, mais subalternes, peu payés, etc., donc qui dans leurs conditions... d'existence ont aussi des ressources assez faibles. Alors pour certains, ils ont quand même franchi le sentiment d'avoir accompli une petite mobilité sociale en devenant fonctionnaire ou en travaillant en entrant dans une administration. Donc c'est le cas d'une partie d'entre eux, notamment les employés de mairie ou les employés du bureau de poste. Et c'est le cas notamment de ceux qui sont originaires soit des quartiers d'habitat social de la commune, soit de quartiers d'habitat social de communes similaires des environs. Néanmoins, la proximité objective et subjective avec le public des services, le public des usagers est vraiment forte. Alors je disais qu'à la mairie, il y a beaucoup de gens qui sont issus des quartiers d'habitat social de la ville. Moi, ça m'a assez vite frappé à partir du moment où j'ai connu un peu les employés de guichet et que j'ai connu des habitants au moins d'un quartier de cette commune. Hein, il y en a beaucoup d'autres de quartiers d'habitat social. Tous les jours, je me suis rendu compte qu'il y avait une interconnaissance ancienne qui était liée soit à des liens familiaux, soit de voisinage entre les employés et les habitants. Donc il y a vraiment une partie de la population qui est issue de ces quartiers et qui en reste très proche, de ces quartiers ou de quartiers... de quartiers similaires. Alors ensuite, parmi les agents les plus jeunes, ça c'est des choses qui ont aussi été bien montrées par exemple par Marie Cartier à propos des facteurs, hein. Il y a tout un ensemble d'agents qui sont par contre d'origine de classe moyenne, rarement au-delà, hein, mais qui sont plus diplômés que les autres et qui sont devenus petits fonctionnaires ou agents contractuels de la poste par défaut, hein, du fait d'échecs à des concours plus élevés ou d'échecs dans des projets professionnels liés à leur niveau d'études qui étaient différents. Donc là, il y a une distance sociale plus importante qui peut exister avec les populations qui fréquentent les services. Et d'ailleurs, on voit que ça a des effets dans le type d'interaction qui se nouent au guichet, hein, qui sont en général un peu plus distantes. Ces jeunes agents plus diplômés. Alors, il y en a une petite minorité, Marie Cartier a pas mal insisté là-dessus, qui est assez politisée, qui va investir le rôle avec des valeurs justement de service public, etc. Moi, j'en ai vu assez peu, en fait. Je pense que, notamment dans les services de mairie, au guichet, ils ne sont pas forcément très nombreux. Hein. Ils vont vite avoir des promotions ou changer de poste. Mais par contre, c'est parmi eux qu'on va rencontrer des gens qui sont le plus enclins à reprendre les discours sur l'agressivité potentielle des habitants ou les différences liées à l'immigration, les autres cultures, etc. Donc là, il y a une hétérogénéité interne aussi à ces employés de guichet qui est assez importante.
Oui, une dernière question. Tu parlais tout à l'heure du fait que la politique municipale soit sensible à la notion de cohésion sociale et pensait que justement dans ces quartiers-là, les institutions publiques contribuaient au maintien de la cohésion sociale. Or, on assiste justement à une espèce de dissolution de la notion de service public dans la notion de service d'intérêt général. On voit que, progressivement, le service public se détériore. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Qu'est-ce qui fera plus tard cohésion sociale s'il n'y a plus justement ce service-là?
Alors déjà, ce terme de cohésion sociale, il faut le prendre un peu avec des pincettes, hein, puisque justement, c'est un peu le pendant de l'exclusion. Hein, on voit les deux arriver en même temps, donc on va analyser les clivages sociaux, non plus en termes de clivage de classe ou en termes d'inégalité, mais en termes d'exclusion, donc un schéma binaire. Où il y a plus tellement de responsables de l'exclusion. C'est un phénomène, un processus multiforme qui est un peu une fatalité. Et donc face à cette espèce de maladie, de pathologie du social, le remède, ça va être la cohésion sociale. Mais donc là, c'est un schéma politique qui entérine un peu une impuissance justement des pouvoirs publics face à ça, hein, et va plutôt aller dans le sens de trouver des remèdes, des solutions pour limiter les dégâts et limiter la casse. Hein, et donc là, la redéfinition des services publics dans ces quartiers défavorisés, elle participe un peu de ça. Hein, c'est l'idée du filet de sécurité qu'on va trouver attaché à la notion de service d'intérêt général, hein, il faut limiter la pauvreté. Alors, donc déjà, c'est un petit peu pour prendre des précautions par rapport à cette notion. Ensuite, sur le fond, les services publics, même s'ils apportent des ressources non négligeables, qui jouent un rôle central dans ces quartiers et pour ces populations, à eux seuls, ils ne vont pas faire reculer les inégalités sociales. Donc il ne faut pas non plus surestimer leur capacité à pallier à toutes les formes d'inégalité, à tous les clivages sociaux. Donc ça serait aussi une erreur inverse que de penser que via les services publics, hein, ce qu'on entend parfois des fois dans certains discours militants, on peut transformer totalement la société.
Donc il va falloir faire plus. L'heure se termine. Donc on va clore cette émission. On recevait aujourd'hui Yasmine Ciblot qui publiait c'était en 2006 Faire valoir ses droits, les services publics au quotidien dans les quartiers populaires, et c'est aux presses de Sciences Po et ça coûte 24 euros. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Puis on s'est aussi appuyé pour préparer cette émission sur un article paru dans Actes de la recherche en sciences sociales, la revue fondée par Pierre Bourdieu. C'est un numéro paru en septembre 2005 où tu écris un article qui reprend une partie des grandes lignes de ta thèse. Voilà, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Et lorsque vous restez quelques jours sans courrier, chez vous quand même il vient pour vous dire aujourd'hui y a rien. Tiens, voilà le facteur. Venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien facteur, et à demain.
Allez, sourire, bonjour, au revoir. Merci ce soir pour tenir le guichet de la radio libre et indépendante. Il y avait la queue. Alors, s'il est fort comme un bœuf et malin comme un historien du mouvement ouvrier, c'est parce qu'il mange tous les matins son bol de Brassmas. Et donc, Jérémy, que dis-je, atomique Jérémy. Lui, c'est parce qu'il fume du sbam qu'il est si détendu dans la file d'attente de son bureau de poste. C'est Raphaël. Lui, c'est de la graine de Kofi, le spécialiste de l'adaptation des services publics. C'était Cédric. Et puis, ce soir, dans le rôle du client mystère, on retrouvait à nos côtés Benoît. Alors, on vous abandonne dans les bras d'écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi, tu meurs de froid. Bonjour, regard, merci, sourire, merci et au revoir.